j'aime beaucoup ces moments-là. J'aime beaucoup ces moments-ci. La première fois qu'un collaborateur avec qui on jase régulièrement au téléphone passe nous voir en studio pour nous jaser en personne, et c'est ce qui se passe là, à Rage Against le matin. Le docteur Pascal Renaud est avec nous en studio, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pascal Renaud, bon matin, merci d'être là.
Ben bon matin les gars, je suis content d'être avec vous.
C'est bien apprécié. On le sait que Pascal, tu as un horaire avec tes différentes tâches très chargées, fait que tu puisses trouver un petit trou dans ta vie personnelle et professionnelle pour venir nous voir, je tenais à le dire, là, très apprécié.
Merci, ça fait plaisir.
On va jaser de différents sujets ce matin, Pascal. J'aimerais qu'on commence avec ce qui est dans les médias là, depuis quelques jours, cette situation, disons-le, inquiétante. En région, mais particulièrement sur la Côte-Nord, là, c'est ce qu'on voit dans les médias au cours des derniers jours. Fermeture d'hôpitaux, de cliniques la nuit, manque évidemment de main-d'œuvre. Ça, c'est éparpillé à la grandeur de la province, je crois, mais on demande même au public si cet été on voudrait travailler dans certains jobs, là, on s'entend, là, avec les hôpitaux de la Côte-Nord. À Québec, question en deux temps peut-être, est-ce que cette situation-là se reflète un peu ici dans la capitale nationale?
Beaucoup moins à Québec, parce qu'on avait beaucoup moins besoin de main-d'œuvre indépendante, là. Donc les fameuses infirmières d'agence, mm-hmm. ou les inhalothérapeutes d'agence qui ont besoin beaucoup là, sur la Côte-Nord. À Québec, c'est presque inexistant, là. Donc dans le CHU, c'est moins de 10 personnes okay. là, qui devront être remplacées. Donc par contre, les gens de la Côte-Nord nous demandent, aux gens de Québec, ouais. est-ce que vous êtes capable de venir nous aider? Puis, ce qui est un peu désolant par rapport à ça, c'est que c'est une décision du ministre. Là. Le ministre a pris une décision il y a environ un an de dire qu'il arrêtait ça. Mauvaise planification, ce qui fait qu'il manque 250 employés dans le réseau sur la Côte-Nord.
Ouais. C'est énorme.
C'est énorme. Pour une région comme ça, une région comme Montréal ou Québec, 250, on pourrait probablement travailler là, puis réussir à faire fonctionner tout le réseau sans ces personnes-là. Mais pour la Côte-Nord, c'est impossible. Ouais.
Comment la deuxième partie de la question, c'est comment on voit ça ici à Québec? Parce que éventuellement que ce soit avec un appel à l'aide ou autre, ou des patients qui seront redirigés peut-être capitale nationale, il va y avoir des retombées ici.
Oui, il va y avoir des retombées. Là. Il y a des patients qui sont ici là, actuellement pour des soins plus tertiaires, qu'on appelle, des soins dans des régions universitaires, qu'on doit retourner vers la Côte-Nord, mais qu'on est obligé de garder ici parce qu'ils n'ont pas de place là-bas où retourner. Donc, c'est des gens qu'on retournerait en avion habituellement ouais. vers le milieu pour finir leur hospitalisation. Bien là, on les garde à Québec parce qu'on ne veut pas qu'ils se ramassent là, nulle part là-bas sans soins. Là. Donc, pendant ce temps-là, bien, la population de la région bien, manque d'accès au lit. Ça fait que ça se reflète sur les temps d'attente à l'urgence.
Tu as parlé de mauvaise planification du ministre. En même temps, c'est une réplique des agences privées de dire hey, « vous nous enlevez complètement ce droit-là, donc voilà, on est retiré, puis organisez-vous avec le reste. »
Écoute, je ne sais pas, mais c'était quand même prévisible. Puis la période de l'année où c'est fait, c'est sûr que c'est probablement pas stratégique.
Oui, parce que c'est les vacances
qui commencent. Donc peut-être que les infirmières qui sont actuellement dans les agences se disent « ben moi, je vais prendre l'été de congé ». Si c'était arrivé au mois de janvier, ben, probablement qu'il aurait été plus... Il aurait peut-être dit « on va recommencer tout de suite dans le réseau ». Mais il y a beaucoup d'infirmières qui avaient dit « moi, je ne retournerai pas travailler pour le réseau public ». Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il y en a qui vont s'en aller vers des compagnies d'assurance? Est-ce qu'il y en a qui vont aller travailler dans le privé? Ou est-ce qu'il y en a qui vont réorienter leur carrière? Puis ça serait dommage parce qu'on a besoin de tout le monde actuellement. On ne peut pas se permettre d'en perdre. Puis c'est ce qui risque d'arriver là, par cette décision-là là, de M. Dubé.
Je vais faire une comparaison, ben, peut-être boiteuse, mais ça va trahir mon âge. J'ai adoré le film Footloose, l'original, quand j'étais jeune. Puis le personnage de Kevin Bacon, un moment donné, sont en face-à-face de tracteur. T'sais, lui puis son rival, son face-à-face. Puis c'est un jeu de chicken. Puis à quelque part, c'est qui va sortir du chemin en premier pour laisser l'autre passer? C'est un face-à-face. C'est ça dans cette situation-là qu'on vit entre le public puis le privé?
Je pense pas parce que actuellement, il y avait d'autres options là, pour le ministre. Là. Puis de créer une pénurie comme ça en si peu de temps, c'est presque du jamais vu. Là. Donc... est-ce qu'il va flancher? Est-ce que je pense que s'il y a quelqu'un qui a besoin de bouger, c'est le ministre. Là. Okay,
ouais.
Je pense pas que les gens des agences vont à court terme dire qu'ils changent. Puis si, à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise comme ça, ben il y a un risque important. Là. Puis si, vous avez lu aussi là, récemment là, le fait qu'il y a 13 000 cadres en santé. Mm-hmm, là.
Ouais.
De ces cadres-là, il y a beaucoup d'infirmières. Là. Il y avait une graphique super intéressante dans le journal, là. Depuis 2020, on a 3500 cadres de plus, mais dans la dernière année, c'est 1000 de plus. Donc, admettons que sur ces 1000-là, il y a 250 infirmières, là. Ça règle le problème de la Côte-Nord, là.
Ouais.
Puis un cadre, ça donne pas de service, là. Un cadre, ça nous rajoute de la paperasse, ça nous rajoute des feuilles à remplir. Puis, à ce moment-là, ben, ça nous rend moins productifs. Là.
Et là, tu m'amènes plein de questions, mais je vais continuer dans la thématique du cadre, justement. Oui. Comment expliquer qu'il y a 35 % plus de cadres, mais 15 % plus de personnel sur le terrain? Ça fait pas de sens pour moi, non. Parce que le système de la santé, c'est un service de... Tu sais, je vais le dire comme ça, c'est un premier service, c'est un service de proximité avec les gens, pas nécessairement une grosse structure qu'il faut absolument nourrir.
Ben, je suis d'accord avec toi. Là, je comprends pas pourquoi il y a tant de cadres qui s'ajoutent. Puis quand le ministre dit que le Santé Québec va être un employeur de choix, visiblement, ça l'est pour les cadres, mais ça ne l'est pas pour le personnel sur le plancher qui donne les soins. Là. Ouais. Il y a 13 000 cadres, il y a 10 000 médecins de famille. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 000 cadres de plus que de médecins de famille dans la région, ce qui... pas dans la région, mais dans la province. Ouais. Pour moi, ça fait aucun sens. Là.
Pascal, comment on justifie ça? Comment on justifie si... moi, je suis pas dans le domaine pantoute, puis ça fait pas de sens. Tu es dans le domaine, puis ça fait pas de sens.
Écoute, je ne sais pas. Okay. J'ai aucune idée. J'aimerais ça vous répondre, mais si quelqu'un a la réponse, on va la prendre, là, parce qu'on ne le comprend pas, nous autres non plus. Là.
Non, c'est ça. Tu parlais d'autres options pour le ministre. Tantôt, je fais juste un retour en arrière avec les infirmières puis le personnel d'agence. Que le ministre avait d'autres options, il aurait pu faire différemment, tu sais. Toi, là, t'es le ministre, là. C'est quoi les autres options? C'est quoi qu'il aurait pu faire différemment pour pas en arriver là?
Actuellement, il y a 13 000 cadres, là. Là-dedans, il y en a une grande partie qui sont des gens qui donnaient des soins avant.
En effet.
Ils pourraient peut-être leur dire, bien, vous allez aller aider cette crise-là, là, tant que ça se passe. Est-ce que ça serait aussi bon de dire, bien, on va reprendre pour au moins l'été des agences, puis on va permettre à des infirmières d'aller travailler cet été en Côte-Nord parce que la crise est grande? Ça serait des options qu'il y a, là, mais j'ai l'impression que dans la dernière année, là, à chaque fois que le ministre a à prendre une décision, il prend toujours la mauvaise. Puis j'en ai parlé, la première fois qu'on s'est parlé, c'était sur l'inscription collective, où on avait un accès qui était donné à 156 000 patients là, dans la région de la Capitale-Nationale qui va être perdu parce que le ministre a décidé de ne pas renouveler cette entente-là. Donc ça aussi, c'est désastreux. Puis déjà, on voit une pression supplémentaire dans les salles d'urgence. Parce que les médecins avaient donné des rendez-vous là, jusqu'au 1er juin. Puis ces rendez-vous-là sont déjà comblés, donc ils vont être donnés. Mais tous les nouveaux patients qui appellent, qui ont besoin de soins, bien, se font dire, bien, j'ai pas de place après le 1er juin, là, il n'y a plus d'entente qui est renouvelée. Ouais. Donc, ces gens-là sont souvent retournés vers l'urgence, puis ce qui fait que les temps d'attente pour être vus à l'urgence ambulatoire augmentent, surtout pour les P4, P5, là, qui étaient ces patients-là qui étaient vus dans ces salles-là.
Ouais. Pascal Renaud, tu es président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Tu travailles à l'urgence aussi. Tu es sur le terrain. Je sais que c'est probablement une question qui a une réponse hyper complexe, ou peut-être que non, mais selon toi, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est le manque flagrant, là, ou qui est plus prioritaire sur le terrain en ce moment?
Bien, ça nous prendrait plus de médecins. Malheureusement, c'est quelque chose qui prend 7 ans là, à former un médecin de famille. Puis, si on en avait plus, puis d'après nos calculs, il en manque 1500 en province. À Québec, il en manque 150. Rajoute-nous 150 médecins de famille, puis ces 150 médecins-là, s'il y avait une bonne planification d'effectifs, là, on les aurait, là, parce que juste dans les 5 dernières années, c'est près de 500 postes de médecine familiale qui n'ont pas été comblés dans les hôpitaux. Pas dans les hôpitaux, mais dans les universités.
Mm-hmm.
Donc, si on avait ces médecins-là, on aurait vraiment plus de facilité là, à prendre en charge là, la population. Là.
Est-ce qu'il y a trop de ces médecins-là dans les cadres aussi, comme un peu pour les infirmières?
Il y a peu de médecins qui sont cadres. Okay. Généralement, il y a mieux donner des soins aux patients. Là.
Parfait.
Il y en a quelques-uns, je vous dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a beaucoup moins.
Oui, là, tu sais, comment je pourrais bien dire, je veux que tu essayes de me dire qu'on peut être positif.
Hey, je l'ai été super positif la dernière fois. J'ai de la misère aujourd'hui
c'est
à l'aider.
Non, mais c'est parce que je te comprends. T'sais, je t'écoute parler depuis tantôt. Je me dis, OK, il va y avoir un débordement dans les urgences en raison de l'arrêt du GAP. Il manque d'infirmières parce qu'il y a trop de cadres et on arrête trop prématurément avec les agences privées. Puis là, on ne peut pas transférer des patients en Côte-Nord. Fait que c'est des lits de moins pour la région de Québec. Dans le fond, on va vivre un été d'enfer.
L'été va être difficile, là. À moins que le ministre revoie sa stratégie. Là. Il y a encore du temps pour le faire. Puis nous, ce qu'on lui demande à la Fédération, parce que nous, on ne s'occupe pas nécessairement des infirmières puis des inhalothérapeutes sur la Côte-Nord. Mais on s'occupe des médecins de famille puis de la lettre d'entente 368, qui était celle sur l'inscription collective.
Ouais.
On est encore ouvert à négocier, là. C'est sûr qu'il y a un tort qui a été fait. Il y a un tort qui ne sera pas réparable, mais il y a encore quelque chose de rachetable pour ramener une partie de ces 156 000 rendez-vous-là. Donc, nous, on est très ouverts, on tend la main au ministre en lui disant, si vous voulez négocier, on va être là, là. Mais s'il ne veut pas négocier puis il est fermé, ben on, malheureusement, c'est une perte d'accès. Puis, des fois, je me pose la question, puis là, je vais avoir l'air d'un complotiste quand je dis ça, là, mais est-ce que c'est une stratégie gouvernementale de diminuer l'accès pour diminuer les coûts? Peut-être, parce que quand quelqu'un ne voit pas un médecin, ben, il n'y a pas une imagerie médicale après, il n'y a pas des prises de sang, c'est plein de coûts qui disparaissent. J'ose croire que ce n'est pas ça, j'espère que ce n'est pas ça. Mais des fois, on est à se poser la question, pourquoi le ministre prend toutes ces mauvaises décisions-là? Là?
Ben d'ailleurs, en terminant, Pascal Renaud, quelque chose de positif à dire au sujet du système de rendez-vous avec le système GAP ou on s'en va direct dans le mur?
Ben, on s'en va dans le mur s'il n'y a pas d'entente de signer avec le ministre, ça c'est clair. Puis les cliniques ont déjà manifesté là, au CIUS ici qu'ils ne feraient pas les rendez-vous là, à perte, là, parce que, comme on l'a parlé la dernière fois, il y a du personnel engagé, il y a plein de gens qui amènent des frais aux cliniques. Donc, si on veut continuer ce service-là sans avoir le forfait qu'on avait pour les patients, ben les médecins vont payer pour voir des patients. Donc, je pense pas que ça va arriver sérieusement. Là.
Je vais dire comme mon chum Jeff, je pense qu'on s'enligne pour un été assez tough. Là,
dans le système puis là, peut-être santé, un automne, puis un hiver, puis une couple d'années difficile, malgré le fait que le système de la santé, c'est difficile depuis plusieurs années.
Exact. Mais ce que je peux dire de positif, par exemple, parce que j'aimerais ça finir sur quelque chose de positif.
Ah, ouais, donc.
La médecine familiale, c'est une belle spécialité.
Oui.
Puis s'il y a des étudiants qui nous écoutent actuellement en médecine, là, n'hésitez pas à la choisir. Oui, il y a quelques embûches souvent causées par les politiciens. Mais la pratique, la proximité avec les patients, le fait d'avoir de les suivre là, du début de ta pratique, souvent jusqu'à la fin de ta pratique en bureau, bien, c'est quelque chose de super intéressant.
Absolument.
Puis la médecine familiale, c'est pas juste de faire du bureau puis de suivre les gens. C'est ce que je fais à l'urgence. Je suis un médecin de famille, je travaille dans une salle d'urgence. L'hospitalisation, les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, les CHSLD, il y a un large éventail de trucs qu'on peut faire en médecine familiale. Donc, puis souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, au cours de leur carrière, commencent dans un domaine, puis selon leur vie familiale, selon ce qui arrive dans leur vie, peuvent évoluer vers d'autres choses. Ce qui est plus difficile dans d'autres spécialités, de changer son type de pratique à travers le temps, à travers l'âge. Donc, pour finir positivement, la médecine familiale, c'est quand même le fun.
On l'a fini la discussion sur une note positive.
Oui, mais
c'est
un super bon point parce que j'avais jamais vu la médecine familiale sous cet angle-là, en étant à l'extérieur du domaine. Moi, je me disais, dans cette clinique, il reçoit ses patients. Donc,
c'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus. Intéressant. Là.
Pascal Renaud, merci beaucoup. On apprécie énormément les discussions avec toi à Rage Against le matin. Puis merci ce matin d'être passé nous voir en personne.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
À bientôt.
Salut. Rage.